Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La Bible se sert d'images tirées de la vie quotidienne afin de faire passer des leçons spirituelles. Dans la courte série que nous terminons aujourd'hui, nous explorons le sens de l'image biblique des vêtements que nous portons.
Je souhaite la bienvenue à notre invité Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Yann, bonjour à tous.
Jean-Marc, aujourd'hui vous allez intervenir pour la dernière fois sur ce thème.
Oui, nous allons considérer les vêtements portés par les soldats partant pour la guerre et nous verrons la manière dont la Bible se sert de cette image. Et à travers la lecture biblique que nous allons entendre, nous pourrons imaginer à quoi ressemblait un soldat dans l'armée romaine il y a 2000 ans. Ensuite, nous chercherons à en tirer des leçons spirituelles. Les conflits armés sont une tragédie. Beaucoup de nos auditeurs le savent. L'apôtre Paul aussi a souffert. Il fut prisonnier de soldats romains. Et il décrit à présent leur tenue à titre d'image afin de nous montrer que le chrétien est engagé dans un tout autre conflit. Écoutons à présent la lecture d'Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 17.
« Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister au mauvais jour et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussures à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. »
Il est clair que ce texte nous demande de nous préparer à un combat. Mais pouvez-vous nous expliquer lequel ?
Oui. Il est très important de noter qu'il ne s'agit pas d'entrer en conflit avec d'autres hommes. Car rappelons-le, Jésus nous demande de pratiquer l'amour de Dieu envers notre prochain. Non seulement il nous exhorte à aimer nos proches, nos voisins, nos amis, mais aussi nos ennemis. Ainsi, il ne s'agit absolument pas de partir en guerre au nom du Christ, pas du tout. L'apôtre Paul identifie toutefois un ennemi dans les lieux célestes. Il s'appelle le diable.
Parlez-nous un peu de cet ennemi. Qui est-il? Que cherche-t-il à faire et comment?
Il semblerait, selon la Bible, que le diable est un ange qui a choisi de se rebeller contre Dieu. Il commande tous les mauvais esprits et démons. Ensemble, ces puissances des ténèbres s'acharnent contre Dieu et leur meilleure façon de s'opposer à lui est de s'attaquer aux hommes et aux femmes qu'il a créés. En bref, le diable et les démons sont des menteurs, des accusateurs, des destructeurs. Ils empêchent les hommes de venir à Dieu en les aveuglant et en les séduisant par de fausses religions et de faux raisonnements. Ils incitent les hommes à commettre des fautes en ayant recours au mensonge et à la tentation. Ils entraînent ainsi les hommes dans un cercle vicieux de mal et de malheur. Ces esprits malins sont aussi les auteurs de manifestations surnaturelles qui, une fois de plus, conduisent les hommes sur des voies mensongères, donnant de faux espoirs qui s'avèrent porteurs de malédictions. Le diable s'acharne aussi contre le chrétien, cherchant à le séparer de son Dieu et à anéantir sa foi et son témoignage. Ses outils sont toujours le mensonge et la séduction, la tentation et les accusations.
Donc, puisque le chrétien est la cible préférée du diable, il doit se préparer à résister à ses attaques, à l'instar du soldat qui se réveille de son armure avant de partir pour la bataille.
Oui, et pour en revenir au texte lu, la première chose à remarquer et que l'armure dont il faut se vêtir est fournie par Dieu. Nous ne pouvons pas espérer nous défendre contre notre ennemi de nos propres forces, mais seulement revêtus de la puissance de Dieu et en ayant recours aux armes qu'il donne.
Justement, l'apôtre Paul nous dépeint l'image d'un soldat dont l'âme est romaine, revêtu de son armure et équipé de tout le matériel nécessaire. Pouvez-vous, à partir de ce tableau, nous expliquer quelles sont les leçons à retenir pour notre propre combat spirituel?
Je voudrais souligner que Paul met l'accent sur la défense. Tout l'équipement cité, sauf peut-être l'épée, est conçu pour protéger le soldat, pour l'aider à se parer des coups éventuels. C'est en ayant recours aux mensonges, aux accusations et à la tentation que le diable cherche à éloigner le croyant de son Dieu. Il a employé les mêmes armes contre Adam et Ève, lorsqu'il a réussi à les convaincre de manger du fruit interdit. Alors, pour résister aux mensonges, pour faire face à la séduction, il faut bien connaître la vérité et être pleinement persuadé de ce que Dieu déclare. Lorsque le diable nous accuse, il veut nous décourager, nous enlever notre joie et notre paix. Pour pouvoir être paré devant toutes ces attaques, nous devons être pleinement convaincus du salut, du pardon et de la justice que Dieu nous donne. Autrement dit, notre foi dans l'Évangile et dans la parole de Dieu doit demeurer forte et inébranlable. Nous devons être tellement convaincus de tout ce que Dieu dit et fait qu'il doit devenir difficile de croire aux mensonges diaboliques et encore plus difficile de tomber dedans.
Merci pour ce résumé bref mais riche d'instructions. Je remarque qu'à travers le texte lu, l'apôtre Paul nous exhorte à endosser l'armure de Dieu. Ainsi, nous avons quelque chose à faire. Évidemment, il s'agit d'une image, mais au quotidien, que pouvons-nous faire pour mieux nous protéger contre les attaques du diable?
Voici en bref trois conseils. La parole de Dieu, la prière et les frères et sœurs de l'Église. Tout d'abord, il faut remplir nos pensées des vérités merveilleuses contenues dans la Bible. Il faut bien méditer sur la personne de Jésus-Christ et sur l'Évangile. Il faut comprendre l'œuvre que Dieu a accomplie dans nos vies et chercher à mener nos vies à la lumière d'un si grand salut. Imprégnés ainsi de la parole de Dieu, de la Bible, nous serons comme des soldats qui arrivent à tenir ferme face aux assauts de l'ennemi. Ensuite, il nous faut pratiquer la prière, car c'est par la prière que nous avons accès à la sagesse de Dieu qui nous permet de discerner les ruses du diable. C'est également par la prière que nous pouvons bénéficier de sa force et de sa puissance, nous permettant de résister aux pièges de l'ennemi. Enfin, nous devons nous entourer d'autres chrétiens et participer à une vie d'église. L'armée romaine était redoutable parce qu'elle était unie et bien organisée. Les soldats se battaient côte à côte en rang serré. Le chrétien aussi sera plus fort, moins vulnérable, s'il bénéficie d'une riche communion fraternelle. Ensemble, les chrétiens peuvent prier les uns pour les autres, s'encourager mutuellement, s'épauler, recevoir des conseils et des richesses tirées de la Bible.
La gloire de Jésus-Christ dans l'Évangile de Jean. Voici le titre de notre série de méditations bibliques. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur ce que Jean-Baptiste déclara au sujet de Jésus. Notre invité Jean-Yves est de retour parmi nous pour nous conduire dans nos réflexions. Bonjour Jean-Yves.
Bonjour Yann, bonjour à tous. Commençons alors avec la lecture de l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 29. Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde ».
La dernière fois, nous avons compris pourquoi Jean-Baptiste s'était crié en voyant Jésus « Voici l'agneau de Dieu ». Jean-Baptiste avait compris que Jésus allait accomplir les prophéties de l'Ancien Testament. Certaines de ces prophéties annoncent très clairement que le roi sauveur, promis par Dieu, mourrait brutalement, semblable à un agneau offert en sacrifice pour le péché.
Oui, et comme l'annonce Jean-Baptiste, c'est le sacrifice de Jésus qui enlève le péché du monde.
Pouvez-vous nous expliquer, Jean-Yves, le sens de ces paroles?
Dieu ne peut tolérer le péché qui réside dans nos cœurs et il exige que justice soit faite. Or, pour apaiser la colère de Dieu et satisfaire sa justice, il faut soit la mort du coupable, soit la mort d'un innocent à sa place. Jésus est celui qui, puisqu'il n'a jamais connu le péché, pouvait se présenter comme l'innocente victime. Il pouvait se donner en sacrifice, apaisant la colère de Dieu et satisfaisant ainsi sa justice. Jésus a accompli cet acte d'amour pour les hommes en se livrant à la mort sur la croix. Là, il a subi non seulement la violence des hommes, mais aussi le châtiment de Dieu. Voici une illustration qui nous aidera à mieux comprendre ces paroles. Imaginons que nous devions nous déplacer chaque jour, courbés sous un lourd fardeau, juché soit sur notre tête, soit posé sur notre dos. Imaginons un instant que ce lourd fardeau représente nos fautes. Or, beaucoup ressentent le poids de leur culpabilité. Ainsi, lorsque nous disons que Jésus enlève le péché du monde, c'est comme s'il enlevait ce fardeau de notre dos, afin que nous puissions enfin nous promener libres et joyeux. Ainsi, Jésus a porté nos fautes, nos péchés, sur la croix. Nous n'avons plus désormais à les porter nous-mêmes.
Voici une très bonne nouvelle.
Effectivement.
Mais cette déclaration, celui qui enlève le péché du monde, veut-elle dire que Jésus a porté le péché de chaque individu sans exception?
Voici une question délicate. L'enseignement de la Bible nous montre que seuls ceux qui s'attachent à Jésus par la foi bénéficient des bénédictions qui découlent de sa mort sur la croix. Encore une illustration. Par mauvais temps, comment faut-il se protéger de la pluie? Il faut se mettre sous un parapluie et seuls ceux qui s'y mettent évitent d'avoir des vêtements mouillés. Il en est de même avec Christ. Seuls ceux qui placent leur foi en lui se protégeront de la tempête, de la colère et de la justice de Dieu. Seuls ceux qui se confient en Christ seront libérés du poids de leurs fautes pour trouver le pardon, la réconciliation avec Dieu et l'espérance de la vie éternelle.
Merci Jean-Yves pour ces belles illustrations montrant toute la nécessité de mettre sa foi en Jésus-Christ et les bienfaits qui en découlent.
C'est avec ces pensées précieuses que Jean-Yves termine cette série sur les paroles de Jean-Baptiste au sujet de Jésus-Christ. Nous le remercions pour sa participation.
Nous remercions également Jean-Marc pour sa contribution apportée lors de ces dernières émissions. La prochaine fois, nous vous présenterons un nouvel invité. Il nous parlera de son cheminement vers la foi en Jésus-Christ.
En attendant, nous vous disons au revoir.
Et que Dieu vous bénisse.